Sud Radio,
le grand référendum,
Dimitri Pavlenko.
Bonjour à tous et bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Le grand référendum, deuxième partie, consacrée ce matin à cette garde nationale voulue et annoncée par François Hollande. Projet officiellement confirmé hier matin par le chef de l'État. Il l'avait évoqué déjà une première fois après les attentats du 13 novembre. À nouveau, après celui de Nice il y a deux semaines. Une garde nationale bâtie à partir des réserves opérationnelles existantes, fédérant d'anciens militaires, policiers et gendarmes et les citoyens de bonne volonté pour épauler les forces de l'ordre. La garde nationale, c'est une institution qu'on a un petit peu oubliée en France. Il faut se souvenir qu'en 1872, la République avait préféré la dissoudre pour lui faire payer son soutien à la Commune de Paris. Depuis, le pouvoir se méfie quand même de ce qui ressemble à une milice de citoyens soldats, de citoyens policiers. Méfiance qui ne serait donc plus à l'ordre du jour. Si nous sommes en guerre, comme l'affirme le gouvernement, il faudrait offrir aux Français le moyen de s'engager, car ils auraient envie d'agir, les Français. Et on aurait tort de déléguer complètement à l'État la mission de nous protéger. Alors pour certains, la garde nationale pourrait même être une alternative au chômage, on va voir comment. Alors quelle forme prendrait cette future garde nationale? À quoi servirait-elle? Seriez-vous tenté de vous engager? Faudra-t-il armer les futurs gardes nationaux? Autant de questions qu'on va aborder ce matin. Je vous attends à l'antenne 0826 300 et sudradio.fr pour voter.
Dimitri Pavlenko.
Le grand référendum. Sud Radio.
Alors, est-ce que vous vous sentiriez de vous engager dans cette garde nationale annoncée par François Hollande, dont les contours, évidemment, restent encore à préciser? Beaucoup de questions autour de cette garde nationale. Combien d'hommes et de femmes? Qui pour la diriger? Exclusivement des militaires ou bien des civils? Faudra-t-il armer ces gardes nationaux? Des questions qu'on va aborder avec nos invités. Je vous les présente. Nous sommes avec le général Emmanuel de Richoufts, fondateur du collectif Cap Jeunesse, collectif d'insertion des jeunes. Bonjour, général.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin en direct sur Sud Radio. Avec nous également ce matin, Jean-Marie Bockel, sénateur du Haut-Rhin, ancien ministre. Bonjour à vous, Jean-Marie Bockel.
Bonjour.
Vous étiez reçu hier à Matignon par Manuel Valls, justement, pour évoquer... pour évoquer ce projet de constitution d'une garde nationale. D'ores et déjà, il y a une première bataille qui se joue autour de cette garde nationale, qui fait à peu près consensus aujourd'hui. Seulement, ce sont ses contours qui posent question. Vous plaidez-vous pour une institution qui soit en quelque sorte pilotée exclusivement par l'armée et les militaires? Il n'y a qu'une armée en France, la garde nationale ne doit pas être une concurrente. Certains disent au contraire, ça doit être des civils, une institution civile. Après tout, ce sont des citoyens et non pas des militaires qui seront les gardes nationaux. Pourquoi plaidez-vous pour une institution dirigée par des militaires, Jean-Marie Bockel?
Mais parce que il faut qu'il y ait une unité opérationnelle, il faut qu'il y ait une clarté dans le dispositif. Et le président de la République, lors de ses déclarations à Saint-Astier après les attentats de Nice, a induit de la confusion en parlant d'une sorte d'institution qui regrouperait à la fois des militaires de l'armée, des militaires de la gendarmerie, des policiers qui ne sont pas des militaires, mais également des personnes, notamment essentiellement jeunes, engagées dans le service civique, dans la protection civile, dans les sapeurs-pompiers volontaires, etc. Ça ne peut pas marcher. Toutes ces démarches de volontariat sont excellentes. Qu'il y ait une coordination, un encouragement, qu'il y ait sur certains événements une capacité de travailler ensemble, qui d'ailleurs existe déjà, c'est très bien. Mais dire que ça, c'est la garde nationale, ça ne veut rien dire. Lorsque nous avons vu hier matin le président de la République, avec ma collègue Gisèle Jourda, les choses se sont un petit peu précisées, mais à mon avis, pas suffisamment. Nous avons eu un échange intéressant, constructif, il nous a écoutés, et je vois que ces positions postérieures à notre entretien, hier matin, puis hier après-midi à Rives-Altes, qui consistent à limiter la garde nationale à des militaires de l'armée, des militaires de la gendarmerie et des policiers. Bon, déjà, on est dans un ensemble sécuritaire, ça répond d'ailleurs à certaines questions que vous avez évoquées tout à l'heure. Oui, naturellement, la garde nationale, elle doit être armée, elle doit être formée, professionnalisée. C'est pas parce que ce sont des volontaires, des réservistes, parce qu'en réalité, toute cette affaire, au départ, c'est le nom qu'on peut donner à une montée en puissance de la réserve, à une territorialisation de la réserve, face, et on aurait dû commencer par là, aux nouvelles menaces. Parce que pourquoi faire évoluer les choses? C'est parce que, avec les attentats, avec des risques de troubles graves voire de guerre civile, qui sont l'objectif affirmé de nos ennemis, oui. N'est-ce pas ? Il faut que nous puissions faire face avec l'armée de la République.
C'est la question que j'allais vous poser, Jean-Marie Bockel, parce que peut-être certains s'en souviennent, il y a de ça 4 ans de cela, un groupe de gradés militaires qui s'appelait le groupe Janus, c'était resté anonyme, avait plaidé, on était en 2012, pour la création d'une garde nationale, idée qui avait été, oui, évoquée, mais n'avait pas suscité beaucoup d'enthousiasme. En 2016, aujourd'hui, c'est la menace terroriste aujourd'hui qui fait basculer les esprits, Jean-Marie Bockel, qui justifierait la création de cette garde nationale.
Oui, assurément. Moi, je fais partie des gens qui, depuis très longtemps, plaident pour un renforcement de la réserve militaire. J'avais essayé de le faire quand j'étais secrétaire d'État il y a quelques années sans succès, parce qu'à l'époque, il faut bien le dire, déjà, nos forces armées, avec les réductions de format successives, étaient au taquet, à la fois sur les OPEX, qui n'ont fait que se renforcer, mais également sur les opérations intérieures, on le voit sur Sentinelle. Et on voit bien dans le monde qui vient, avec le terrorisme, on ne va pas se contenter de Sentinelle, opération statique, qui a ses vertus, mais on va forcément être sur une démarche dynamique et une démarche qui aura forcément un caractère militaire. Moi, je pars du principe, si vous voulez, qu'on ne peut pas mélanger les genres. On peut travailler ensemble, on peut se coordonner, mais les militaires, c'est les militaires. L'armée française, elle a cette qualité, hein, comme institution de notre pays, de notre République, et elle est peut-être celle qui le fait le mieux aujourd'hui, d'insérer en son sein, essentiellement évidemment des jeunes, hein, par définition les soldats sont jeunes, qui sont la réalité de la diversité française, sociologique, ethnique, géographique, et elle en fait, qu'ils soient d'active ou de réserve, des bons soldats, formés, professionnels pour leur mission, et avec une démarche morale et éthique. Donc tout ça, c'est une réalité. Cette armée-là, elle a la capacité de monter en puissance à travers cette réserve militaire. Notre idée, c'était d'appeler cette réserve militaire garde nationale. Bon, après, on peut évidemment trouver un terrain... Enfin, un terrain d'entente, mais une coordination avec les gendarmes qui sont aussi des militaires, qui ont certes des missions différentes, qui dépendent du ministère de l'Intérieur, donc ça crée une complexité, mais qui au niveau d'une garde nationale territorialisée, la gendarme étant elle-même territorialisée, est surmontable. Bon, après, la question de la police est posée, moi je considère que ça crée une complexité supplémentaire, mais en tout cas, ce qui est positif dans les propos d'hier, et ça prouve que là on a été entendu, parce que je m'étais quand même un peu exprimé depuis quelques jours en disant attention, une garde nationale fourre-tout, ça ne marchera pas, c'est qu'on n'est déjà plus dans le fourre-tout. On n'est pas encore complètement dans la clarté, mais bon, pour finir de répondre clairement à votre question, oui, c'est les événements qui ont fait évoluer les esprits, naturellement. Cette armée française, dont je rappelais tout à l'heure les qualités, et le général pourrait bien sûr en parler encore mieux que moi, je n'étais pendant 40 ans qu'un modeste réserviste, cette armée française, elle a évidemment la capacité de faire face, comme toujours dans la République, à des circonstances exceptionnelles, que ce soit des catastrophes naturelles, que ce soit des grèves insurrectionnelles dans les années 40, des troubles graves, et nous allons vers des risques de troubles graves. Et d'ailleurs, le meilleur moyen, moi je ne suis pas un prophète de malheur, de les prévenir, de les empêcher, d'empêcher ces ferments de guerre civile que nos ennemis sont en train de semer, c'est effectivement d'avoir une force sur les territoires capable, en plus des forces de gendarmerie et de police, de faire face. Et ça n'est possible aujourd'hui avec une armée au taquet qu'avec une montée en puissance de la réserve. Alors, c'est ça l'idée. Alors il ne faut pas la dénaturer,
la
mettre en œuvre.
Il y a de nombreuses questions politiques qui vont se poser autour de cette garde nationale, parce que certains se souviennent des conditions dans lesquelles elle a été supprimée. Il y a une ambiguïté fondamentale au sein de cette idée d'une armée de citoyens. On va en parler tout à l'heure, Jean-Marie Bockel. Mais d'abord, général de Richoult, Jean-Marie Bockel le dit très clairement, on a une armée qui est au taquet, des forces de police qui le sont également face à la lutte antiterroriste. On invoque l'idée que les Français souhaitent s'engager. Bon, soyons honnêtes, la garde nationale aujourd'hui, ça va être un supplétif des forces de l'ordre. En gros, l'idée, c'est de trouver des remplaçants aux militaires d'active à l'opération Sentinelle, trouver des bonnes volontés pour aller garder les églises dont on sait maintenant qu'elles peuvent être attaquées par des terroristes, général de Richoult. C'est quand même moins sexy, moins excitant que ce qu'on nous vend quand même.
Enfin, je souris parce que finalement, l'histoire est un éternel recommencement. Il y avait, il y a encore 25 ans en arrière, 30 ans en arrière, la défense opérationnelle du territoire, qui était des régiments, les parents pauvres peut-être de l'armée de terre, militaire, mais qui avait la particularité d'être sur le territoire national, la défense opérationnelle du territoire, et en fait, ça pouvait être les yeux dont on a besoin aujourd'hui. Mmh. On a réduit nos armées à la portion congrue, et brusquement, on s'aperçoit que ce dont on a besoin, c'est finalement...
Des bras et des yeux, c'est ça.
Le terrain.
Voilà. Des bras, des jambes et des yeux.
Et on ne sait plus comment se dépêtrer de l'affaire, et on propose des solutions qui partent d'un bon sentiment, en disant on a besoin d'yeux, on a besoin de jambes, on a besoin de gens pour occuper le terrain, et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va créer une garde nationale qui, comme l'a dit Jean-Marie Bockel, et je le salue ici, va être véritablement une partie de l'armée, parce que c'est ça dont il s'agit, une autre partie de l'armée avec des réservistes, pas des réservistes, etc., etc. Mais on a besoin, c'est ce dont on a besoin, c'est cette patte humaine pour finalement occuper le terrain.
Mais justement,
quelle est la mission? Donc je rejoins tout à fait ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une unicité de commandement. On ne peut pas avoir, à mon sens, sur le territoire national, plusieurs chefs, plusieurs missions déconnectées les unes des autres, qui feront qu'à terme, eh bien, on aura des chapelles, des guerres de chapelles inévitables pour savoir qui fait quoi. Dans toute cette affaire-là, moi, Emmanuel de Richouf, qui suis quand même auprès des jeunes dans les quartiers depuis maintenant un certain nombre d'années...
Oui, on va parler de votre mission, c'est important.
Cette affaire,
ouais.
On ne prenne pas en compte quand même bien la volonté de ces jeunes de s'intégrer.
Alors moi, c'est la question que je voulais vous poser, c'est on met qui dans cette garde nationale?
On parle de gens qui vont s'engager dans la réserve, qu'elles soient gendarmes ou qu'elles soient dans les armées. Oui. J'ai regardé sur la checklist qui a été faite en disant il faut qu'ils soient français, il faut qu'ils soient bien sous tout rapport, il faut que ceci, que cela. Bon, finalement, on va encore créer des exclus, et les gens qui sont d'ores et déjà exclus dans nos quartiers ne sont encore plus.
Alors c'est ça que je voulais vous demander, général de Richoult.
Finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas, c'est-à-dire, encore une fois, avoir une césure entre la jeunesse française?
Voilà. Mais attendez, si je résume, général. Général, aujourd'hui, vous nous dites la garde nationale, déjà, elle sera largement alimentée par les retraités de la gendarmerie, les retraités de la défense, de la police également, plus des bonnes volontés des citoyens qu'on formerait à cela. On parlera de ces stages. Mais vous dites aujourd'hui, finalement, ce qu'il faudrait peut-être, ça ressemble beaucoup à ce que vous dites, à intégrer des jeunes des quartiers, à une alternative d'abord au chômage, ça pourrait être ça, et voir carrément, pourquoi pas, ne rétablir la conscription. On sait qu'il y a plein de gens qui pensent qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il faudrait faire.
Moi, je suis pas pour le rétablissement de la conscription, vous le savez bien, parce que on va vers une complexité terrible, mais je dis, dans les quartiers aujourd'hui, vous avez des jeunes, et je les côtoie, hier j'étais encore à Mantes-la-Jolie, donc je vois très bien, il y a des gens qui aujourd'hui essaient de s'en sortir, et il leur manque le petit plus qui ferait qu'ils puissent servir, ils se sentent dans la nation. Et pour se sentir dans la nation, ils sont prêts aujourd'hui à venir avec nous. C'est-à-dire avec nous que j'entends les réservistes, la garde nationale. On leur tend pas la main. On fait comme s'ils n'existaient pas. Et donc, une fois encore, on risque de poser ces jeunes le sentiment, ils vont se dire, une fois de plus, voilà, on est encore des exclus et on nous rejette encore de la société.
Oui.
Il y a un certain nombre de jeunes...
La garde nationale devrait être une machine à intégrer. Oui.
Qui sont des sportifs de haut niveau, qui sont des gens qui encadrent d'autres jeunes, qui sont prêts à venir. Et d'autant qu'on ne leur demande pas grand-chose, on leur demande 10 jours par an, etc. Mais ils viendraient. Et ça serait un petit peu l'amorce, si vous voulez, progressive, de ce que j'appelle de la reconquête des quartiers et des cœurs, qui permettrait à ces jeunes d'être les ambassadeurs auprès de leur quartier en disant, voilà, moi j'ai servi la France parce que j'ai donné de mon temps pour surveiller une église, pour surveiller la frontière, pour faire des patrouilles. Ils n'ont pas besoin d'être armés, on n'a pas besoin de réservistes armés.
Déjà, vous n'êtes pas d'accord.
On a besoin d'oreilles, d'yeux, d'observateurs, etc. Voilà, enfin, c'est mon sentiment.
Mais alors Jean-Marie Bockel, moi je trouve que déjà, on veut lui confier beaucoup de missions à cette garde nationale, supplétive de la défense, de l'assurance du territoire, un machine à intégrer, alternative au chômage. On a beaucoup de missions déjà. Hein.
Oui, moi je pense qu'il faut bien savoir de quoi on parle. Ce dont parle le général, et j'admire son engagement, on se connaît, et le fait de pouvoir insérer dans un dispositif militaire des jeunes des quartiers en difficulté, ou pas spécialement en difficulté, mais également engagés, c'est bien. Et tout ce qui est engagement civique, service civique est à développer. Mais dans mon esprit, si vous voulez, la garde nationale, avec ce qu'elle peut recouvrer comme force de nature militaire et sécuritaire, elle est armée, elle est entraînée, elle n'est pas élitiste, elle ne divise pas la jeunesse, parce que l'armée française, aujourd'hui, on le sait bien, n'est pas ne divise pas la jeunesse, au contraire, elle la rassemble, elle la réunit, et ça on le voit, il suffit d'aller regarder le 14 juillet, d'aller dans les régiments pour voir qu'on a la réalité de la jeunesse française.
Enfin c'est 200 000 hommes l'armée française.
La garde nationale, elle doit être avec des réservistes à l'image de cela. Alors une partie de ces réservistes, bien sûr qu'il y aura d'anciens militaires, tout ça, et c'est très bien, mais une partie de ces réservistes, c'est je dirais même une partie principale numériquement de ces réservistes, ça doit être des jeunes. Ces jeunes, ils peuvent être... Alors bien sûr, il y aura des officiers, des sous-officiers qui seront plus chevronnés.
Mais des jeunes et des moins jeunes.
Ils peuvent avoir un travail dans les entreprises, dans l'administration. Notre rapport parlementaire fait des propositions pour qu'on puisse plus facilement accéder pendant quelques jours par an à... Allô ?
Oui, vous êtes là, on vous entend. Vous
métier, êtes à l'engagement militaire. Et certains d'entre eux, qui sont... en fin de formation universitaire, apprentissage ou autre, mais qui n'ont pas encore de travail, pourront, et c'est une de nos propositions aussi, contracter un engagement plus long, quelques mois.
Engagement indemnisé ou pas, Jean-Marie Bockel ? Alors, faut-il indemniser les gardes nationaux ?
Nous, on part de l'existant, notre réflexion. La réserve, elle existe, la réserve militaire, elle existe, et une fois qu'ils sont sur le terrain, qu'ils ont été formés, ils sont des militaires comme les autres. Simplement, ils le sont quelques jours par an. Ça veut dire qu'ils sont formés, ça veut dire qu'ils sont payés, ils ont une solde. Je peux vous dire, la moyenne de cette... dans la gendarmerie, parce que j'ai ce chiffre à l'esprit, c'est 89 euros par jour. Mais dans l'armée, c'est des montants qui sont assez proches, qui varient selon le grade, mais qui sont pas du tout ridicules.
80 euros par jour.
Oui, oui, oui. Donc, des jeunes qui accepteraient de le faire pendant quelques semaines, quelques mois, avant de partir dans la vie professionnelle, auraient une rémunération, une solde correcte, et ensuite, d'ailleurs, n'en seraient que mieux armés pour, si je puis dire, pour leur vie professionnelle.
Alors,
pour revenir simplement au point de débat qu'on peut avoir, et qui n'est pas un point de controverse, encore une fois, c'est juste qu'il faut savoir de quoi on parle. Moi, je pense qu'il faut du volontariat pour les jeunes dont parlait le général, et certains de ces jeunes dans un processus volontaire, et déjà c'est les épides, n'ont pas vocation à être armés, mais ce n'est pas la garde nationale. Oui. La garde nationale, j'ajoute encore, la garde nationale c'est les soldats.
On va
et j'ajoute
voir.
Encore un dernier point là-dessus, quand on parle de supplétifs. Aujourd'hui, la réserve militaire est une variable d'ajustement, mais nécessaire, les militaires le reconnaissent. Demain, la garde nationale devrait être au cœur du dispositif militaire. C'est-à-dire que oui, ils auront un certain nombre de missions de type garde statique, sentinelle ou autre, mais ils auront également, dans le cadre de la couverture du territoire, mais aussi dans les OPEX, il y a déjà des réservistes dans les OPEX, ils auront des missions militaires valorisantes.
Justement, c'est une question qu'on va aborder.
Ne dénaturons pas non plus.
Jean-Marie Bockel, je vous interromps.
L'importance que peut avoir cette garde.
On va marquer une courte pause, on revient dans un instant. Vous venez de dire quelque chose d'intéressant, ces gardes nationaux seront des militaires, justement. Pourront-ils être utilisés dans des guerres, au-delà de la guerre contre le terrorisme qui se mène sur notre territoire ? Aux États-Unis, par exemple, à la garde nationale américaine, c'est une force, c'est devenu à l'usage une force utilisable dans des guerres. On y va voir ce qui se fait dans d'autres pays au sujet de ces gardes nationales, ces nombreuses missions, ces nombreuses vertus qu'on lui prête alors qu'elles n'existent pas encore. Faudra-t-il armer ces gardes nationaux ? On a commencé à en parler. Qui dans ces gardes nationaux ? Combien devraient-ils être ? On ira faire un petit tour aussi dans les camps où l'on mène ces stages de formation de la réserve opérationnelle qui pourrait être aujourd'hui l'un des réservoirs de cette garde nationale. Sudradio.fr, Fabien Tacquart, question qu'on pose à nos auditeurs. Est-ce qu'ils se sentent, eux, cette volonté d'engagement évoquée par le chef de l'État qui serait le moteur de la création de cette garde nationale ?
Oui, nos auditeurs se sentent concernés, ils se sentent mobilisés par cette question puisque vous répondez 75% oui à 75%, vous vous engagez dans la garde nationale.
Sud Radio,
Dimitri Pavlenko,
le grand référendum.
Aujourd'hui, la lutte antiterroriste est menée par des troupes professionnelles en France, mais les Français auraient envie de s'engager. C'est en tout cas ce que pense François Hollande, qui confirmait hier la création d'une garde nationale. Garde nationale, combien doivent-ils être, ces gardes nationaux ? Faut-il les armer ? Quelle autorité au-dessus ? Civil aux militaires ou militaires ? C'est autant de questions qu'on passe en revue avec nos invités ce matin. Jean-Marie Bockel, il est sénateur du Haut-Rhin, ancien ministre secrétaire d'État, et le général Emmanuel de Richoux, fondateur du collectif Cap Jeunesse, collectif d'insertion des jeunes, le général de Richoufts, qui voit également une mission d'insertion sociale possible pour cette garde nationale. Général de Richoufts, aujourd'hui, certains vont se poser la question, vous allez me dire un brin provocante aujourd'hui, alors que Patrick Calvar, le patron de la DGSI, évoquait un risque de guerre civile. N'y aurait-il pas un risque aujourd'hui de former des Français, peut-être en grand nombre, peut-être plusieurs dizaines de milliers, au maniement des armes, à la tactique du combat, puisque c'est ça aussi la garde nationale. Les stages aujourd'hui de la réserve opérationnelle sont des stages militaires, donc des stages où on en apprend aussi à faire la guerre, général de Richoufts.
Oui, enfin, ils ont pas attendu, les terroristes dont vous me parlez, ils ont pas attendu la garde nationale pour s'entraîner au maniement des armes, hein, je vous dis tout de suite.
Oui, bon, c'est pas tellement à ça que je pensais, mais...
Ils tirent très bien, ils n'ont pas besoin de vous, ils n'ont pas besoin de la garde nationale pour s'entraîner.
Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de militarisation des civils hein.
Le deuxième point, j'insiste, mais je crois que je ne suis pas entendu. Il ne s'agit pas pour moi d'avoir une garde nationale qui soit une armée d'insertion. Ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas le but. Notre jeunesse aujourd'hui, et j'en vois, il y en a un certain nombre qui sont désespérés. La désespérance les amène à l'exclusion, puis au terrorisme, parce que sous tous les aspects que vous pouvez imaginer. Et le meurtre du prêtre il y a 3 jours en est un exemple. Si la République ne fait pas quelque chose, c'est-à-dire ne prend pas un certain nombre de ces jeunes, je ne vais pas tous les prendre, mais un certain nombre de ces jeunes, vers véritablement une intégration via la défense du pays, d'une manière ou d'une autre, nous allons les exclure une fois encore. C'est ce que je voulais vous dire. Après, je ne suis pas président de la République, le président, il a des conseillers, ils feront ce qu'ils voudront. Mais j'insiste, je me permets de dire que les jeunes que je côtoie, il y a des gens extraordinaires qui sont exclus parce qu'ils ont fait des bêtises, ils sont marqués, ils ont des bracelets électroniques au bas des jambes. Mais bon, ils ont fait des bêtises, certes. Mais qu'est-ce qu'on fait pour leur acheter? Vous les rejetez parce que à aucun moment les armées les intégreront. Voilà. Alors je dis, pour moi, la garde nationale était peut-être la petite ouverture qui aurait permis pour certains d'entre eux de se sentir véritablement français et de parvenir ainsi à être, j'allais dire, reconnus pour ce qu'ils sont, des Français, à part entière, et être ainsi des ambassadeurs dans les quartiers en disant, regardez, j'ai défendu mon pays, moi aussi. Et je suis donc, et vous pouvez le faire aussi. Alors, voilà, c'est tout.
Jean-Marie Bockel.
Il y aura une garde nationale avec les 750 quartiers dans lesquels la police ne va pas, c'est pas ce que je veux dire. Mais je pense qu'il faudrait qu'on fasse quand même un effort vers ces jeunes-là. Voilà.
Mais Jean-Marie Bockel évoquait l'existence des EPID, hein. C'est un petit peu ça, cette école de la deuxième chance, hein. Mission que vous aimeriez bien voir confiée à la garde nationale de manière beaucoup plus vaste aujourd'hui.
Les EPID, je connais bien, parce que j'étais à la moment de la création des EPID il y a maintenant 10 ans, les EPID, autant que je sache, ne prennent pas dans leur rang des jeunes qui sont exclus. Voilà, donc une fois de plus, on joue l'exclusion sur l'exclusion. Voilà, donc il faut vraiment être dans le système, à l'intérieur, enfin, ou du moins hors du système et regarder ce qui se passe pour voir que c'est très compliqué à un jeune aujourd'hui qui a des casseroles, pour parler vulgairement, pour s'intégrer maintenant dans la vie professionnelle, dans la vie sociale. Voilà.
Jean-Marie Bockel, est-ce que vous trouvez qu'il manque aujourd'hui à ce projet de garde nationale tel qu'il est évoqué? Alors c'est assez sommaire aujourd'hui dans le discours politique, parce qu'on en est à l'ébauche encore, vous le disiez tout à l'heure, à la réflexion, au débat, mettre cet accent d'intégration sociale pour ceux qui sont exclus aujourd'hui de la société française.
D'abord, je veux apporter une précision. Les EPID intègrent des jeunes en très grande difficulté, donc exclus. La seule condition, c'est qu'ils soient volontaires. Mais vous avez sûrement déjà vu des reportages sur des jeunes dans les EPID ou rencontré, c'est mon cas, des gens qui aujourd'hui les font vivre. C'est un mélange de militaires et une démarche d'insertion de nature militaire. Bien sûr, ils n'apprennent pas le maniement des armes, hein. Ils se remettent dans le circuit scolaire, etc. Mais c'est très, très difficile. Le défaut des EPID, pour fermer cette parenthèse, c'est que ça concerne quelques centaines de jeunes en France. Parce que comme souvent en France, on s'arrête en chemin. Voilà. Bon, maintenant, sur le fond, moi je suis très admiratif de ce que fait le général de ses amis de Cap Jeunesse, dont une maire des locaux, et je suis partie prenante de leur démarche, et il faut la développer, mais on est sur deux sujets différents qui peuvent d'ailleurs avoir des passerelles.
Oui.
Le sujet de la garde nationale, ce n'est pas d'abord un sujet d'insertion de jeunes en grande difficulté. Par contre, si on veut lutter contre les fractures qui menacent notre pays, on ne pourra pas faire l'impasse sur cette jeunesse, cette partie de notre population qui peut être évidemment un vivier, on ne parle même pas de terrorisme, mais d'extrémisme, de radicalisation, etc., même si ces phénomènes touchent toutes les couches de la population. Mais c'est sûr que l'exclusion, c'est un phénomène majeur en France, il faut lutter contre ce phénomène. Mais la garde nationale, c'est une réponse à un défi sécuritaire, de court terme, alors qu'ensuite il y ait des passerelles entre des dispositifs de lutte contre l'exclusion, qu'ils soient de nature militaire ou civile ou associative, et la possibilité d'aller plus loin dans un dispositif militaire qui a une grande capacité. Et forcément, l'organisation militaire est un sas entre ceux, parmi ces jeunes, qui ont à un moment donné envie d'aller...
Oui, ça peut être une de ces missions.
Qui arriveront, et ceux qui, à un moment donné, ne rempliront pas les conditions et n'y arriveront pas. Et voilà. Donc, je crois qu'il ne faut pas mélanger complètement, même s'il y a un lien forcément entre les deux au niveau de notre jeunesse, la dimension d'insertion qui est essentielle, c'est vrai, pour le pays de manière générale, nonobstant la question du terrorisme, et la question de l'armée nationale, qui doit avoir une dimension professionnelle, militaire, avec des gens structurés, bien équilibrés. De toute façon, ils sont volontaires pour la réserve. Vous parlez tout à l'heure du maniement des armes, je suis d'accord avec le général. Je veux dire, on le voit bien dans d'autres pays, aux États-Unis ou ailleurs, tout soldat peut à un moment donné dériver et devenir, mais c'est quand même le fait de quelques individus, et ça n'enlève rien à la pertinence d'une démarche militaire qui, elle, va plutôt à l'encontre, évidemment, de ces risques de dérive, puisqu'elle contribue à structurer aussi, sur le plan moral, personnel, les personnes qui s'engagent dans cette démarche pour leur pays.
Alors, il y a aussi une autre... Quelle taille, justement, pour cette garde nationale, hein, si je fais un parallèle qui vaudra ce qu'il vaut, avec les États-Unis, pays de 320 millions d'habitants, la garde nationale, c'est presque un demi-million d'Américains qui en font partie, forces mobilisables y compris en temps de guerre. En France, on parle, chiffre avancé par le journal Le Monde, d'une garde nationale qui pourrait quand même avoisiner 170 000 membres. Ça doublerait pratiquement les forces de sécurité françaises. C'est quand même pas rien. Général de Richouft, ça vous paraît être un volume conséquent? Alors là, j'agglomère dans ce chiffre de 170 000 tout le monde, hein, c'est-à-dire les réservistes de l'armée, de la gendarmerie, de la police, etc., etc. Ça ferait quand même pas mal de monde.
Oui, enfin, c'est des chiffres, quand les chiffres, on leur fait dire un peu n'importe quoi, hein, parce que je peux vous dire que les réservistes, pour avoir été dans l'entreprise pendant 8 ans, je peux vous dire que les réservistes opérationnels dans une entreprise qui était une entreprise majeure en France, pour avoir quelques réservistes opérationnels, c'est un combat de tous les jours, qui n'est pas partagé forcément par les DRH de l'entreprise et par les PDG, donc voilà. Donc si vous voulez, après, sur le papier, vous faites dire, effectivement, vous prenez les anciens militaires, ceux qui sont volontaires, etc., vous arrivez à un chiffre qui dépasse celui de l'armée de terre actuellement. Ceci étant, je crois que le président de la République, d'ailleurs, est revenu à un chiffre beaucoup plus modeste en disant il faut commencer par 15-20 000, je crois, hein, ça devait être ça, il faut commencer par 28 000, je pense, dans les 2-3 ans qui viennent. Bon, c'est déjà pas mal, hein, ça serait le tiers de l'armée de terre ou le quart de l'armée de terre.
Oui.
Voilà, et je crois, si vous voulez, que l'affaire des réservistes, enfin, les réservistes, enfin, Jean-Marie Bockel est beaucoup plus au fait que moi dans ces affaires-là, puisqu'il les suit depuis maintenant pas mal d'années, mais c'est très compliqué, hein, avoir des réservistes dans les PME, les PMI, c'est quasiment impossible. Dans les grandes entreprises, il faut s'y prendre des mois à l'avance pour être sûr que celui qui est volontaire pour être réserviste puisse laisser sa place et puis avoir quelqu'un derrière qui fasse le boulot. Enfin voilà. Donc je dirais, si vous voulez, je pense qu'il faut être pragmatique dans ces affaires-là, comme il a été dit. Commencer, j'allais dire, une expérimentation progressive et en petit nombre. Et puis en fonction des avancées, eh bien essayer de trouver la bonne méthode pour avoir des réservistes. Voilà. Donc le chiffre, si vous voulez, vous n'allez pas comparer les États-Unis et la France. Hein. Je pense que la réserve, la garde nationale aux États-Unis, c'est une armée, carrément, hein, une armée que j'ai pu côtoyer d'ailleurs dans l'OTAN quand j'étais en Bosnie. Bon, les gens peuvent s'absenter un an, c'est tout à fait autre chose.
Oui, il va y avoir une culture aussi à développer dans le pays aussi, à cet égard, Jean-Marie Bockel, puisque en France, aujourd'hui, s'absenter, quand on est pompier, déjà volontaire pompier, c'est compliqué de faire admettre à son employeur qu'on est obligé de partir, de lâcher son poste pour partir éteindre un incendie. Là aussi, il va falloir que se diffuse cette culture de l'engagement et quelque part et du prix que ça a, c'est-à-dire c'est une concession vis-à-vis de son boulot, de sa vie de famille. Quoi.
Je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire le général, j'y reviendrai, mais d'abord je réponds à votre question. Oui, vous avez raison, et en même temps c'est en train de se faire. D'abord, ce qui est très positif, c'est que le volontariat, j'allais dire, le regain, le sursaut de volontariat. Le volontariat a toujours existé. Vous avez cité l'exemple excellent des sapeurs-pompiers. Hein, le sursaut de volontariat pour s'engager, il est là. Il est là, tout le monde le constate, y compris dans la chose militaire, hein, mais aussi dans les engagements civils. Au fond, ce qu'il faut maintenant, c'est arriver à fournir, à suivre, parce que beaucoup de gens qui se déclarent volontaires sont déçus parce qu'il n'y a pas de répondant. Et au fond, des initiatives comme celle de la Garde nationale, avec sa vocation évidemment sécuritaire et militaire, d'autres initiatives aussi, elles doivent permettre, et notamment en direction des jeunes, eh bien d'apporter à ce volontariat derrière un accueil, une formation, une mission. Et ça, c'est ce qui nous ramène d'ailleurs au nombre cité par le Monde. Là, on est un peu, si vous voulez, dans le grand n'importe quoi qui m'inquiétait après les premières déclarations de François Hollande. Le grand n'importe quoi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on mélange tout, eh bien, il n'y a rien qui marche.
Oui, oui.
Si vous voulez mélanger la sécurité civile et la réserve de la gendarmerie ou de l'armée, ça ne veut rien dire, si vous voulez. Ce sont des domaines distincts. Et puisqu'on parle des... Alors, juste une remarque aussi au passage, et là, le général l'a fort bien dit. Nous, on ne veut pas une garde nationale à l'américaine ou autre, c'est-à-dire qu'on ne veut pas une deuxième armée. Pour ce qui est de la réserve militaire, ce sont des gens, des volontaires, qui, la seule différence avec ceux de l'active, c'est qu'ils font quelques jours par an, et même peut-être même quelques semaines ou quelques mois, mais sinon, ils sont dans le dispositif. Et donc, ça veut dire concrètement que cette garde nationale, déjà passée de 28 000 à 40 000
oui.
de personnes engagées concrètement dans la réserve pour environ un mois par an, c'est déjà évidemment un gros travail. Et alors, la remarque sur les entreprises, elle est très juste, mais on le comprend aussi dans une certaine mesure. Mais là aussi, les esprits changent. Moi, j'ai rencontré les gens du MEDEF, les gens de la CGPME, des administrations, de l'université. Il y a maintenant une appétence pour l'engagement, dont on voit bien aussi le plus qu'il peut apporter.
Oui, avoir été dans la garde nationale, ça pourrait avoir la même valeur que d'avoir fait un stage dans l'humanitaire, ça peut avoir sur certains CV, quoi, en gros.
Mais c'est vrai que dans une entreprise, à un moment donné, si on continue de monter en puissance, on peut passer de 28 000 à 40 000, ce qui est prévu dans les textes en 3 ans, dans le dispositif actuel, avec le budget prévu, ça peut marcher. Mais si, à un moment donné, on va au-delà, et forcément on ira au-delà, se posera la question d'une compensation, notamment en direction des petites entreprises. Les Britanniques, par exemple, qui ont une réserve assez exemplaire, ont mis, il y a très peu de temps, 1,8 milliard de livres sur...
Et oui, c'est évidemment
parce
tout ça.
Aujourd'hui, les réservistes d'aujourd'hui, qui sont des gens formidables, sont souvent des clandestins. Il y a des gens qui font de la réserve sur leur temps de vacances, leur temps de week-end, de RTT, etc.
Effectivement.
Sans même que l'employeur ne le sache.
Voilà.
Ou en tout cas, il feint de l'ignorer. Hein, donc tout ça, si vous voulez, c'est des sujets qui sont devant nous, sur lesquels d'ailleurs nous avons fait des propositions extrêmement concrètes, qui partent d'ailleurs de l'existant, parce que tout ce qu'on doit faire...
Mais gageons que ça soit pas...
embryonnaire.
Que ça aide là, et au-delà de l'effet d'annonce, d'ailleurs, Général de Richouft, ça fait partie de vos craintes. Je prends par exemple le cas de la réserve citoyenne, dont le président de la République annonçait que ça allait être déployé pour permettre aux jeunes de s'engager. Finalement, ça fait un peu flop, quoi.
C'est-à-dire que la réserve citoyenne, j'étais un des ceux qui étaient à l'origine en Ile-de-France de la réserve citoyenne. On n'a pas le même public et c'est pas la même mission. La réserve citoyenne, on a souvent dit ça, c'est une réserve de rayonnement, c'est-à-dire finalement le lien armée-nation au travers de personnalités, d'industriels, d'acteurs, de gens de la société civile haut placés qui faisaient connaître la défense au travers de leur personne vers les institutions qu'ils représentaient. Donc on n'est pas, et parce qu'ils n'avaient pas le temps, ils sont pris à temps plein dans leurs entreprises ou dans leurs fonctions. Mais ceci étant, ça permettait à la défense d'être connue ou d'être reconnue au moment où l'armée se professionnalisait.
Oui, oui.
Donc ce n'est pas des gens qui sont là en uniforme pour porter des armes et puis aller monter la garde, je ne sais pas où.
Mmh.
Voilà, c'est tout à fait différent. Donc la réserve citoyenne, ça s'adresse à d'autres personnes pour d'autres missions.
Oui. En tout cas, affaire à suivre, on verra ce qu'il en est de cette garde nationale dont la création est désirée, annoncée par François Hollande. Merci à tous les deux, Jean-Marie Bockel, sénateur du Haut-Rhin, d'avoir été avec nous. Général Emmanuel de Richouft, également fondateur du collectif Cap Jeunesse, collectif d'insertion des jeunes. Sudradio.fr, vous engageriez-vous dans la garde nationale? Question que je vous pose ce matin, chers auditeurs. Votre réponse sur Sudradio.fr, Fabien Tacard.
Eh bien, plus de réserves désormais à l'issue de ce débat sur cette question, puisque vous êtes, chers auditeurs, 55% à répondre toujours favorablement. Vous engageriez donc dans la garde nationale.
qu'on peut aussi avoir un avis différent. Je pense qu'il y a des sujets plus importants.
Il faut aussi parler des choses qui vont bien.
Qu'on nous donne la parole.
Le forum du grand référendum.
10h46 sur Sud Radio, bienvenue, c'est à vous. Si vous nous rejoignez, le forum du grand référendum, c'est votre moment. Vous venez commenter l'actu en direct avec nous. 0826 300 300, le numéro à composer pour être en direct à l'antenne. N'hésitez surtout pas, vous êtes les bienvenus autour de cette table avec moi. Philippe David, bonjour Philippe, rebonjour.
Rebonjour Dimitri.
Votre info du jour.
Ben moi c'est une info positive, je trouvais ça ridicule et je vais faire mon mea culpa, le fameux Ice Bucket Challenge qui consistait à se renverser un seau d'eau glacée sur la tête face caméra, et ben ça a permis de faire avancer la recherche contre la maladie de Charcot.
Allez, on va nous raconter ça dans un instant. Fabien Tacquart, votre info du jour.
Eh bien, on va parler de conquête spatiale, la sonde Philae, plus précisément, une sonde qui a fait ses adieux.
Alors moi, je vais vous parler des Jeux Olympiques qui démarrent très prochainement. J'ai plus le compteur en tête, mais ça doit être dans...
5 août.
Pile une semaine, c'est vendredi prochain.
Vendredi prochain. Et alors, il y a certains athlètes, je pense, qui doivent être un petit peu inquiets. Ceux qui vont se livrer aux compétitions nautiques. Hein. C'était d'ailleurs la grande promesse des JO. Rio allait dépolluer son immense baie de Guanabara, où vont se dérouler ces compétitions nautiques. Mais alors, à une semaine des Jeux, la qualité de l'eau est toujours équivalente, tenez-vous bien, à celle des égouts. Et le comité olympique le reconnaît facilement, mais en off, il faudrait un miracle pour qu'aucun athlète ne tombe malade au contact des eaux de la baie de Guanabara. Pour les JO, les organisateurs s'étaient engagés à nettoyer cette baie qui est polluée à 80%, promesse qui avait ravi, évidemment, les habitants de Rio et le comité olympique, tant qu'à faire, puisque les Jeux... mettre comme ça l'attention du monde entier sur cet endroit, tant qu'à faire, autant le dépolluer, c'était profitable à tout le monde. Seulement, le problème, c'est que la qualité de l'eau, aujourd'hui, elle est toujours équivalente à celle des égouts. Un indice, quand même, il faut consommer l'équivalent de 3 petites cuillères de cette eau pour tomber malade. Et je vous parle de maladies, quand même, qui ne sont pas anecdotiques. On ne parle pas d'une simple gastro. Vous pouvez attraper quand même l'hépatite A, dysenterie, ou des maladies de peau. Alors, plusieurs athlètes, d'ailleurs, ont été malades pendant les épreuves test en août dernier, l'année dernière, alors que le temps était sec. Car l'argument qui est développé par les organisateurs brésiliens, c'est de dire, en ce moment, c'est l'hiver au Brésil. En hiver, le temps est plutôt sec. Or, c'est quand il pleut beaucoup que la baie est le plus polluée, du fait du ravinement, de l'écoulement des eaux usées de la ville de Rio dans la baie de Guanabara. Manque de peau, on peut tomber quand même donc gravement malade, alors que la saison, semble-t-il, est la plus profitable à une qualité des eaux. C'est plutôt inquiétant. Moi, je ne sais pas si j'étais athlète, si je prendrais le risque d'aller plonger dans ces eaux de Guanabara, qui sont aussi celles dans lesquelles se baignent ceux qui vont se baigner sur les fameuses plages brésiliennes, celle d'Ipanema, notamment la célèbre plage d'Ipanema de Rio de Janeiro, qui est aussi extrêmement polluée. C'est plutôt inquiétant, je trouve, quand même, que même un événement olympique, l'événement olympique d'une ampleur internationale comme celui qui va démarrer la semaine prochaine, ne permette pas d'aboutir à la dépollution de ces eaux.
Ben, ça nous prouve quand même que le Brésil n'est peut-être pas le bon choix qu'il aurait fallu pour ces Jeux Olympiques, mais on sait que la géopolitique joue dans l'attribution. Pour info, le laboratoire antidopage brésilien n'est pas accrédité pour faire les tests antidopage, c'est quand même très fort. Et deuxièmement, on parle de la baie de Guanabara, c'est vraiment un désastre si on peut prendre la dysenterie, parce que la dysenterie, on peut en mourir quand même,
oui, oui, oui.
L'hépatite aussi, etc., alors que des athlètes viennent pour faire du sport, pas pour tomber malade.
Oui.
Ça pose quand même beaucoup de questions sur le choix du Brésil et de Rio de Janeiro pour l'organisation,
oui,
des JO.
Ou tout simplement du site de Guanabara. On sait que dans le projet français, par exemple, il y avait... pas du tout les mêmes problèmes de pollution, mais enfin, plusieurs sites avaient été évoqués pour accueillir les compétitions nautiques. J'ai du mal à comprendre pourquoi on s'est obstiné à choisir ce site-là qui, certes, est célèbre, mais enfin, vu la qualité des eaux, ça aurait dû être le critère numéro un.
Surtout, il y a quand même un paramètre. Quand Paris avait été candidate en 2012 et avait été recalée, elle avait été candidate aussi en 2008, elle espère 2024, les épreuves de voile allaient se passer à La Rochelle. La Rochelle, c'est pas à côté de Paris, qu'on le veuille ou non. Donc, si on avait été faire les épreuves de nage en eau, je sais plus comment ça se dit, pas en eau vive, mais en eau hors piscine, ils pouvaient aller les faire à 100 km de Rio ou 200 km, parce que La Rochelle, c'est plutôt à 500 ou 400 km de Paris.
Ouais.
Mais c'est à ce niveau-là, ça prouve quand même qu'il y a eu un choix pour le moins pas très réussi.
Ouais.
Et on espère que ça se passera bien quand on sait qu'il y a eu des menaces d'attentats et tout.
Et qu'il y aura pas de malade.
C'est d'ailleurs ce qui est prévu dans le dossier Paris 2024. Hein. Certaines épreuves vont se dérouler a priori du côté de Lille, d'autres du côté de Marseille. Ça, c'est pour la natation, mais en bassin. Donc oui, c'est pas, il n'y a pas d'obstacle, même si c'est une ville qui doit organiser les Jeux Olympiques, à délocaliser certaines compétitions, certains événements de ces Jeux Olympiques. Ça aurait pu être le cas à Rio. Mais l'attraction que procure Rio de Janeiro pour le Brésil, la vitrine que c'est, a visiblement pris le pas sur tout le reste. On veut profiter donc de cette magnifique ville, de ce qu'elle représente de paradisiaque, et visiblement au détriment une fois de plus de la santé, du bon sens. Et les athlètes, on espère qu'ils n'en paieront pas les conséquences, parce que c'est assez inquiétant justement toutes ces maladies dont vous nous parlez, Dimitri.
Effectivement, alors on suivra ça, les problèmes de pollution dans la baie de Guanabara. Rendez-vous à partir de la semaine prochaine pour voir ce qu'il en est pour les athlètes. Vous restez avec nous, le forum revient dans un petit instant, on vous attend à l'antenne, vous êtes les bienvenus. 0826 300 300, on vous parlera de la sonde Philae, mission terminée pour elle, et du Ice Bucket Challenge. Vous rappelez cette opération visant à se verser un seau de glace sur la tête? Eh bien, figurez-vous que ça a permis à l'achat à la recherche d'avancer. A tout de suite.
Le forum du grand référendum.
10h53 sur Sud Radio. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Le forum continue avec quelques infos du jour. En vous attendant, chers auditeurs, 0826 300 300. Vous prenez la parole si vous souhaitez commenter l'actu en direct avec nous. Vos coups de gueule, vos coups de cœur sont les bienvenus. À propos, par exemple, de cette garde nationale, est-ce que vous en feriez partie? On en débattait il y a quelques minutes. Autour de cette table avec moi, Fabien Tacard, Philippe David. Philippe qui voulait nous parler du bilan de ce Ice Bucket Challenge. Challenge un peu qui paraissait au départ un petit peu idiot. Ça consistait à se verser un seau de glace sur la tête.
Et d'eau glacée, oui.
Ouais, d'eau glacée.
En étant filmé et en étant relayé sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, les sites de vidéos en ligne, YouTube, Dailymotion, pour ramener de l'argent pour la recherche contre la maladie de Charcot.
Comment on gagne de l'argent en se versant un seau d'eau sur la tête?
Eh bien, c'est filmé et plus un nombre de gens importants le voit, plus les pubs qui sont dessus rémunèrent la recherche.
Alors, générer du trafic sur cette vidéo, ça permet de récolter des gains, comme sur YouTube par exemple, passer un certain nombre de vues, vous gagnez de l'argent. Et cet argent, il est confié à des laboratoires, c'est ça?
C'est ça. Alors, ce qui s'est passé, on connaît également la maladie de Charcot sous un autre nom, qui est la sclérose latérale amyotrophique. Alors, il y a eu des victimes très célèbres, notamment dans le monde du sport, ce qui a permis d'avoir des doutes sur certains dopages, notamment dans le football italien. On se rappelle de Stefano Borgonovo, qui jouait au Milan AC à l'époque, à la grande époque, avec Gullit, Van Basten, Rijkaard, qui en est décédé il y a quelques années. Le demi-mêlée des Springboks champions du monde en 95, Joost van der Westhuizen, est en fin de vie parce qu'il a cette maladie. Jérôme Golmar, tennisman français, est atteint par cette maladie.
Plus plein d'anonymes aussi.
Et puis des gens du milieu de la culture, Stephen Hawking, qui en est atteint. Mike Porcaro, le bassiste de Toto, qui en est décédé. David Niven, l'acteur anglais, qui en est décédé. Ou encore Franck Alamo, vous avez connu Bichot ma biche, un tube intemporel, qui a une cinquantaine d'années.
Alors finalement, Philippe, aujourd'hui, cette maladie était incurable? Parce que la recherche a progressé.
Elle est toujours incurable, mais... Alors, je vous donne déjà les noms de quelques personnes qui ont joué le Ice Bucket Challenge. Tom Cruise, Bill Gates, Justin Timberlake, David Beckham, Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert de Monaco, Britney Spears, Johnny Hallyday se sont prêtés au jeu. Et on a récolté 104 millions d'euros qui ont été divisés en deux, moitié pour la recherche et moitié pour l'aide aux malades.
C'est plus que le Téléthon, en fin de compte, là.
Oui, parce que là, c'est mondial.
Oui.
C'est pour ça.
Et puis juste avec des vidéos de gens se versant un seau d'eau glacée sur la tronche.
Exactement.
Sur la tête.
Et alors, par contre, ça a permis de payer une équipe de 80 chercheurs issus de 11 pays qui ont isolé un gène. Et ce gène, il s'appelle le NEK1. Alors, vous voyez, je donne même le nom. Ne me demandez pas la description génomique. Ouais,
On en fait l'économie.
Et par rapport à ce gène, on a une idée assez précise sur son influence dans le déclenchement de la sclérose latérale amyotrophique.
Donc, pas de traitement, mais meilleure connaissance du mécanisme.
Du mécanique. Et si on connaît un gène, on peut envisager un jour une thérapie génique. Donc c'est bien pour l'avenir. Et au début, j'avais trouvé ça ridicule. Et bien maintenant, je trouve ça très bien. Mais à culpa.
Philippe, aujourd'hui, alors ça a marché parce que c'était nouveau. Si ça doit être reproduit, est-ce que ça marchera autant? Les gens ne vont-ils pas s'habituer finalement? Cela dit, c'est vrai que créer de l'argent en regardant une simple vidéo, ça paraît assez ahurissant. Quand
et surtout, 104 millions d'euros, 115 millions de dollars, c'est colossal.
Oui.
On trouvera peut-être une autre vidéo. Là, ce ne sera plus un seau d'eau glacée sur la tête, mais manger des insectes ou un truc comme ça. Il faudra trouver un truc extraordinaire.
Ouais.
Mais pourquoi pas 104 millions d'euros, c'est colossal, colossal.
C'est vrai.
Et ça a permis de découvrir un gène qui va peut-être permettre de guérir un jour cette terrible maladie qui est vraiment... C'est une maladie où tout se paralyse petit à petit et on finit par décéder.
Voilà, comme quoi Internet, ça peut avoir du bon et sans que ça vous coûte grand-chose, sinon en quelques secondes. Ça vous permet de financer de belles causes comme ça. Fabien Tacard, on va terminer avec vous sur des nouvelles de Philae. Enfin, des nouvelles, en tout cas, la dernière nouvelle en date, c'est que c'est terminé, Philae.
Ah oui, la dernière nouvelle, c'est celle-là. Il y a d'ailleurs ce tweet. Il est temps pour moi de vous dire au revoir. C'est le compte officiel de Philae qui a fait ses adieux il y a quelques jours. La sonde ne répondra plus jamais. C'est terminé. L'Agence spatiale européenne a coupé les ponts. Plus de communication avec cet atterrisseur, ce robot. Alors, elle était posée sur la comète Chury depuis août 2014, une comète qui se balade actuellement très loin, à 520 millions de kilomètres du Soleil. Hein, c'est même pas de la Terre, c'est vraiment très très loin par rapport à nous. Et donc, elle ne communiquait qu'avec la sonde Rosetta, la sonde qui tournait autour de la comète Chury, la sonde Rosetta qui servait de relais avec la Terre. Bon, de toute façon, il faut dire ce qui est, Philae n'était plus très bavarde, hein, parce que ça faisait même un an qu'on n'avait plus entendu du tout, plus de signal. En fait, à sa décharge, dès son atterrissage, ce fut compliqué. Philae était mal positionnée, elle a toujours été. Ça a compliqué sa communication avec Rosetta, et ça a compliqué également la recharge de ses batteries, des panneaux solaires. Alors, au bout de 2 ans de mission, et malgré un an donc sans communication, ben, quel bilan en tirer ? Eh bien, aucun échec. En tout cas, c'est ce qu'a voulu communiquer l'agence européenne, puisque l'exploration de cette comète a été riche d'enseignements. Selon cette agence, 80% tout de même des missions qui étaient prévues ont pu être menées à bien.
Donc c'est loin d'être un échec, même si dès le départ, ça paraissait mal engagé. Hein.
C'était, on peut dire, un peu du pessimisme même qui était dès le début, parce que justement, je vous l'ai dit, l'atterrissage a été compliqué et on avait de gros doutes sur ne serait-ce que pouvoir communiquer dès le début finalement. Il y a eu quand même un an de communication, beaucoup d'analyses de gaz et de poussière donc, qui ont pu être communiquées, des analyses qui ont permis d'identifier 16 composés organiques, 16 dont, tenez-vous bien, 4 totalement inconnus. Donc ça va pouvoir permettre à nos scientifiques de travailler, de continuer d'avancer dans la recherche et peut-être percer un jour, alors peut-être dans beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années, le grand mystère que représente notre galaxie, notre univers.
Voilà. Et oui, rappelons que c'était le mystère de la vie, hein, puisque cette comète était censée nous en apprendre un peu plus sur la possible fécondation de la Terre par ces comètes extraterrestres. Merci à tous de nous avoir écoutés ce matin. Le grand référendum revient à partir de demain matin, 9h. Dans un instant, c'est Seul contre tous, Philippe David qui revient sur ce débat dans les rédactions. Faut-il, oui ou non, livrer, continuer de donner le nom et la photo des terroristes? Philippe pense qu'il ne faut surtout pas les anonymiser. Qu'en pensez-vous? 0826 300 300. Le débat, c'est dans un instant. Sudradio.fr pour voter. On se retrouve à partir de demain matin, 9h. Bonne journée à tous. Merci d'écouter Sud Radio.